Alors, nous allons passer non pas à des travaux pratiques, mais justement à une rencontre avec trois auteurs qui ont participé à la dernière édition du Festival du premier roman de Chambéry. Gilbert Gatoré, qui a publié Le passé devant soi aux éditions Phébus. Karine Henry, qui est intervenue tout à l'heure comme libraire, mais qui est également auteur d'un premier roman, La des œuvres, chez Actes Sud. Et Eskander Kali, Abreuvons nos sillons aux éditions du Rouergue. François Raison va lire tout de suite pour que vous entriez, si je vous dis, dans le vif du sujet, que vous entendiez la musique des mots, des extraits de ces trois romans.
Gilbert Gatoré, Le passé devant soi. Elle se souvient de ce matin où, elle en est certaine maintenant, tout a commencé. Ce matin s'est figé dans un coin de sa tête. De temps en temps, elle aime l'en sortir comme on déploie un vieil habit, pour l'aérer, en considérer l'usure et la désuétude. Presque indifférente, elle le voit se dérouler de nouveau, aussi précisément que possible. C'est un matin normal. Elle est réveillée par une sonnerie stridente, 7 heures. Après quelques minutes, lentement, elle se lève. Elle allume sa bouilloire et une cigarette. Elle prend une douche. Elle s'habille après un moment passé ahuri devant son placard. Elle mange des céréales. Elle boit du thé. Elle rassemble ses affaires de cours et se met en route pour attraper le train de 8h10. Avant de sortir, le jour normal implique aussi qu'elle se maquille pendant que la studette, dont elle a ouvert la fenêtre, s'emplit de la fraîcheur du dehors et qu'elle éteigne le radio-réveil dont le bruit l'a accompagnée depuis 7 heures. Habituellement, rien du flot d'informations, bulletins météorologiques, publicités et chansons n'atteint sa conscience embrumée. Au même titre que les bâillements, l'eau de la douche ou encore le thé, la radio n'est qu'un moyen de stimuler ses sens assoupis. Dans son souvenir, ce matin-là, elle est seule. L'autre ne lui a pas infligé de passer la nuit avec elle. Avant de prendre sa mallette, elle vérifie qu'elle a bien toutes ses affaires. Elle était sur le point d'oublier sur son bureau le support de l'exposé préparé pour le cours de marketing stratégique. Elle se félicite de son habitude de tout contrôler avant de partir. Comment est-ce qu'une action involontaire réussit-elle à se glisser dans cette gestuelle automatique? Au moment d'éteindre la radio pour partir, elle augmente le volume qu'elle voulait baisser jusqu'au clic indiquant l'extinction de l'appareil. Aussi incroyable que cela puisse sembler, c'est d'avoir augmenté le volume au lieu de le couper qui explique sa présence ici. C'est de ce geste que tout le reste a découlé. Elle se rappelle avec précision la violence avec laquelle le son jaillit. Elle se demande s'il est possible que ce son ne soit jamais sorti de ses oreilles depuis ce jour qu'elle visite en pensée. D'ailleurs, où va le son qu'on entend? Où vont les mots une fois qu'on les a entendus? Ce matin-là, la radio lui hurla que, dans un pays dont la seule évocation la figeait d'inquiétude, le nombre de prisonniers était tel qu'au rythme des jugements, il faudrait 2 ou 3 siècles pour examiner le cas de chacun des détenus. Le journaliste, plus doucement, comme elle avait baissé le volume, évoqua le pourcentage de la population emprisonnée par rapport à la population du pays. C'est de son pays natal dont il était question. Elle fixa le petit radio-réveil un très long moment, son regard semblant adressé à un ami qui viendrait de la trahir de la façon la plus misérable. Elle avait jusqu'alors réussi à se mettre à l'abri de toute évocation du seul mot qui lui était insupportable, le nom du pays où elle était née, et ne comprenait pas pourquoi elle avait failli. Elle finit par éteindre le poste et partir, mais ce passage du journal qui s'était jeté sur elle, comme un criminel saute sur sa proie, ne la quitta pas. Comme elle marchait en direction de la gare, il lui sembla qu'elle avait plus de mal que d'habitude à se presser pour ne pas rater son train et son premier cours. Avec le recul, il lui semble clair qu'à ce moment-là, alors qu'elle traînait les pieds vers son école, elle était déjà passée à autre chose, ailleurs. Elle n'y allait que pour accomplir une habitude ou ce qu'elle considérait encore comme un devoir. Une partie d'elle ne la suivait plus.
Mais
Karine Henry, la désœuvre. Le parking était déjà plein. Nous allions devoir nous garer plus loin, à l'extérieur, vers les entrepôts. Aussitôt, Barbara se mit à crier qu'on ne compte pas sur elle pour traverser cette zone de pouilleux, qu'on la dépose immédiatement devant les portes du magasin. Ma avait obéi. Barbara était descendue. Très vite, nous trouvâmes une place. Cependant, pour rejoindre l'entrée à pied, ça nous prendrait bien 5 bonnes minutes, avait dit Ma. Alors, à peine sortie de la voiture, je me collai à ses jambes. Je n'étais pas rassuré, à cause des pouilleux. Je les guettais, mais il n'y avait rien. Barbara avait exagéré, il n'y avait rien de sale, rien que d'autres voitures, d'autres gens, beaucoup d'enfants, de poussettes, de caddies, tout était normal. À l'entrée, Barbara avait disparu. Pendant que Ma détachait un chariot, je l'aperçus. Elle venait de s'accroupir, visage contre dans les genoux, bras sur la tête, coincée, recroquevillée entre 2 photocopieuses. Ma s'en amusa. « Tu te caches, ma chérie ?» Aussitôt, Barbara leva les yeux, la dévisageant, lui dévorant la bouche. « Que ce soit clair, je suis là pour t'aider, mais ne m'adresse plus la parole, et toi, Marie, tu la fermes. » Mais ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors d'un jet, une pierre, une phrase, poufias avec ton caddie. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'elle a, hein? Qu'est-ce qu'elle a? Ma s'était mise à me regarder, à me fixer. Elle m'interrogeait, mais ce n'était pas moi. Moi, elle ne me voyait pas. C'était le vide qu'elle interrogeait. Pourtant, je le savais ce qu'elle avait, ma sœur, ce qui se passait. J'aurais pu même avertir, décrire tout ce qui allait se passer si nous ne rentrions pas tout de suite à la maison, sans attendre. Mais comment t'expliquer? Ma ne m'écouterait pas. Cette fois, elle était dans mon ventre et elle bougeait, la peur. La même que tout à l'heure, mais plus rien en moi pour la retenir. Alors je la lâchai et les ailes se déployèrent. Une tache noire perchée là-haut sur la dernière étagère du rayon. Le noir du corbeau. Toujours il apparaissait avant, juste avant les choses graves. Barbara s'était relevée, elle marchait devant, loin de nous. Des dents, elle avait déchiré la liste de courses en deux. Elle se chargeait d'une partie, remplissant mécaniquement les paniers qu'elle portait à bout de bras. Cela faisait 10 minutes déjà, je ne la quittais pas des yeux, ni elle, ni ma montre. Avec le monde, j'avais du mal à la garder en vue, et un instant, je crus que ses gestes s'étaient déréglés, qu'elle marchait de travers, comme désorientée. Je me rapprochais. Non, je ne m'étais pas trompé. Elle tremblait. Ses mouvements se troublaient, son pas se brouillait. Trop de corps l'effleuraient. Elle venait de bousculer une dame, semblait ne rien avoir vu, ne plus rien voir, avançant tout droit devant elle. Ma m'avait demandé de lui rapporter du riz. Quelle incapable! Je t'ai demandé du riz blanc, pas du brun. Quand je vois Barbara comme elle est efficace, et puis arrête un peu de la guigner comme ça, tu m'entends, tu... Un cri la coupa net. Au bout du rayon, à 5 mètres, un nourrisson hurlait. Ma sœur, immédiatement mes yeux sur elle. Ma sœur, lentement, je la vis poser les paniers à terre. Son calme était mauvais. Ses poings fermés, blancs. Aussitôt je compris, et désobéissant à Ma, je courus jusqu'à Barbara. Mais à l'épaule, un coup bref et violent lui suffit à me faire basculer dans les bouteilles d'eau. À terre, le corbeau piqua sur moi. Ma sœur ne m'avait encore jamais frappé. Tandis que j'essayais de me relever, Barbara se mit à marcher vers la mer qui, de dos, semblait continuer à bercer tranquillement son nourrisson dont les pleurs avaient depuis redoublé. Et plus Barbara avançait, plus je peinais à me dégager, mes pieds dérapant, patinant sur un sol trop gras et mouillé. Il fallait que l'enfant se taise à l'instant, et tout pourrait s'arrêter. Le corbeau disparaîtrait, je parviendrais à me relever, et rien alors n'aurait existé. Maintenant, Barbara était à moins d'un mètre de la mer qui continuait à regarder les produits sans se soucier davantage des pleurs qu'elle semblait ne pas même entendre. Il y eut alors un instant, un silence, un arrêt. Et puis, comme si l'enfant pressentait le danger, des hurlements remplacèrent le pleur. Cette fois, Barbara ne résisterait pas aux rafales. Ses cris, des lames plantées à la surface de sa peau qui déjà hachaient, striaient son visage. Je saisissais parfaitement la tourmente. Toute cette haine qui levait en elle, la prenait, allait s'emparer de son corps, de ses nerfs, en tordre chaque fibre. J'entendais ce grondement lointain, profond, qui montait, enflait, une rage qui bientôt allait déferler, et puis soudain, ce fut là. Soudain, il fut trop tard. La fissure avait eu lieu. Barbara se quittait, elle cédait. Ma sœur se jeta sur la femme. En tombant, la mère avait protégé la tête du bébé, mais les deux corps étaient au sol. Barbara les dominait. Dès lors, je sus que ma sœur ne s'arrêterait plus. Barbara allait libérer cette énergie noire qui lui brûlait les chairs et l'emportait. Déjà, elle frappait du pied le dos de la mère sans défense, les mains trop prises à abriter l'enfant dont les cris n'avaient plus de fin. De plus en plus aigus, acérés, percutant le corps de Barbara qui s'était mise à trembler, à tressaillir de cette violence qu'ils engendraient en elle. Alors Barbara agrippa les cheveux de la femme et d'un coup sec lui tira la tête en arrière. La gorge déployée, bouche ouverte, maintenant la femme appelait l'air, mais Barbara ne la lâchait pas, forçant ce corps à céder, à s'ouvrir enfin pour atteindre et frapper l'enfant. Ma était restée immobile, pétrifiée, regardant les gens qui commençaient à affluer autour de la mère qui demandait de l'aide, qu'on la débarrasse de cette folle, de cette cinglée. Mais à ces mots qu'il ne fallait pas, Barbara gifla la femme. Aussitôt, un homme tenta de la ceinturer, mais il n'attrapa qu'un de ses bras. Alors ma sœur leva très haut le pied. Non, elle ne devait pas, il ne fallait pas ça, on ne lui pardonnerait pas. Et l'homme continuait, tirait toujours, empoignant Barbara, mais son pied, le pied de Barbara, si elle visait bien, le pied avait le temps. Le visage de l'enfant n'était pas loin. Un instant suffirait et l'instant suffit. Immédiatement, les pleurs cessent. Le pied de Barbara retombe au sol. De stupeur, l'homme lâcha ma sœur qui, d'un geste, attrapa une bouteille de verre, menaçant avec ce qui l'approchait. Derrière elle, un vigile arrivait. Elle dut l'entendre fracassant la bouteille contre une étagère. Elle se mit à courir, bousculant, renversant, personne n'osant la toucher avec ses langues de verre braquées devant elle. Tandis que le vigile s'épuisait, Barbara approchait déjà de la sortie. Alors, je la fixai. Regardais ma sœur dans sa course affolée, la fuite de ce corps happé par la fureur d'un mal occulte, ce corps qui désormais venait de se déclarer une guerre sans fin. Lentement, les portes automatiques s'ouvrirent. Barbara s'engouffra, bientôt on ne la vit plus. À présent, les gens s'agglutinaient. Je me relevai et me précipitai, moi aussi, sur la femme. Avant de l'aider, je voulais savoir. La foule augmentait, je m'y glissais, me faufilant jusqu'à la voir. L'enfant n'était qu'à peine touché. Barbara avait donc retenu sa force. L'enfant avait repris ses pleurs. Je m'écartai, laissai passer Ma qui déjà s'agenouillait. Skander Kali, abreuvons nos sillons. On est le 13 juillet 2003. On se trouve dans le seul bâtiment encore intact. Les autres sont dévorés par le feu. Dans le couloir, il y a des prisonniers en colère. C'est des crevards, des longues peines. Ils se sont libérés eux-mêmes. Et ils s'en prennent à des innocents. Faites quelque chose, Cissé. Rivoir, il me dit ça à moi. Comme si je pouvais faire quelque chose. J'y suis pour rien. Rivoire, c'est le directeur de la prison Notre-Dame. On est dans son bureau. Il y a Abdoul, Karim et moi. Le jury, c'est nous, pour une fois. Et Rivoire, c'est l'accusé. Il a les joues toutes rouges. Il a peur. Il est effrayé. Il n'a même pas pensé à desserrer sa cravate. Je suis gentil, je le fais pour lui. Rivoire, il dit merci. C'est Mokhtar qui mène les opérations. Mokhtar, c'est un barbu. Le genre de type qui vous crève au nom de Dieu, même si vous n'avez rien fait d'autre que le regarder dans les yeux. Mais bon, on ne peut pas leur en vouloir aux barbus. C'est une émeute, une mutinerie. C'est la force des choses. Juste le pouvoir qui bascule pour quelques heures. Tout a pété à cause d'une histoire de canicule. Il faisait 42 degrés à l'ombre. Les crevards supportaient plus la chaleur et Rivoire, ils ne pouvaient trop rien faire pour eux. Une prison, c'est pas fait pour être confortable, ni pour être climatisé. On est là pour en baver, payer notre dette à la société et tout le baratin. Les mecs, ils ont parlé des droits de l'homme, pour dire qu'ils étaient des hommes, qu'ils avaient des droits et qu'ils devaient être détenus décemment. Mon cul. Ces types, ils savent même pas lire ou écrire. Un ramassis de noirs et d'arabes, la lie de l'humanité, voilà ce que c'est les tolards de Notre-Dame. Je connais cette engeance. C'est la mienne et je suis comme eux. À mon avis, on n'est pas des êtres humains. Alors au début, ce bâtard de Mokhtar voulait juste étrangler Rivoire, à main nue. Ses doigts se pressaient autour du cou, ses phalanges blanchissaient. C'est un tueur, Mokhtar, au sens propre. Alors je me suis interposé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je savais que ça allait mal tourner et j'ai eu mal au ventre. Mais j'ai dit que Rivoire, il méritait un procès. Pourquoi un procès qu'il m'a demandé Mokhtar? C'est la justice, non? Je lui dis que ça rase tout de suite. Non. Pense aux droits de l'homme. J'ai dit ça parce que j'avais pas d'autre argument. Et parce que j'ai le sens de l'humour aussi. Mokhtar, il m'a regardé avec ses yeux d'assassin. Je vous nique votre sale race à tous les deux alors. Après le procès. Et il a lâché Rivoire. Je venais de signer mon arrêt de mort pour quelques mots dont j'avais rien à foutre. Droits de l'homme. Dont personne n'a jamais rien eu à foutre tant qu'on n'est pas directement concerné. Si l'expression « droits de l'homme » avait eu un sens, il n'y aurait jamais eu de prison comme Notre-Dame. Il n'y aurait eu ni colonisation ni extermination des Indiens d'Amérique, ni rien d'autre de la sorte. Ces histoires de droits et de devoirs, c'est que de la connerie pour mieux entuber ceux qui doivent l'être en les bassinant avec des mots.
Merci François Raison. Gilbert Gatteret, Le passé devant soi, donc votre premier roman, n'est pas situé d'une manière très précise. Vous êtes né au Rwanda, vous avez pris soin de laisser planer une sorte de flou dans le livre, de façon à ce qu'il puisse, dans le fond, s'appliquer à toutes sortes de situations, même si on reconnaît assez aisément, peut-être, la guerre au Rwanda. Et vous êtes un des premiers, je pense, il y a eu des livres sur le Rwanda, il y a beaucoup de livres sur le Rwanda, vous êtes l'un des premiers, à affronter ce sujet d'une manière romanesque, par la fiction romanesque.
Le premier Rwandais.
Mais pas le premier Rwandais,
pas
oui.
Le premier, d'accord. Parce que d'autres l'ont déjà fait. Avant ça, en fait, je voulais juste remercier la personne qui a lu, parce que c'est quand même extraordinaire. D'habitude, quand on se retrouve dans ce genre de situation, en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai l'angoisse de la première question qui est toujours « Alors, de quoi parle votre livre ?» Alors on a toujours un peu l'air con parce que c'est difficile à résumer. Et je trouve toujours en fait que la seule manière de savoir de quoi parle un livre, c'est de le lire, même un bout. Et c'est comme ça que je fais notamment pour acheter des livres en librairie. Et donc je trouve ça juste extraordinaire. C'est vraiment un luxe de pouvoir, pour les gens qui sont ici, en tout cas, le leur présenter. Pas d'une manière pseudo-commerçante, mais juste le texte. Donc merci.
J'en profite pour vous remercier également. Je pense que c'est véritablement une des meilleures manières d'entrer dans un texte.
Voilà. Sinon, pour répondre à la question, pourquoi je n'ai pas mentionné le Rwanda, pourquoi le roman n'est pas localisé d'une manière évidente, en fait, il faut savoir qu'au début, je l'avais fait. Donc, il y avait les noms Rwanda, génocide, Hutu, Tutsi et compagnie. Mmh. Donc, tout était vraiment très, très incarné. Et en fait, je trouvais que moi, ça me gênait et le mot est faible. Oui. Et puis surtout, à un moment donné, je me suis rendu compte que ce sont des mots en fait, qui sont tellement chargés de sens. Quand on dit génocide, on voit tout de suite des images très fortes, très lourdes, et ainsi de suite, que je trouvais que c'était presque irrespectueux pour le lecteur de l'étouffer, en tout cas dans une fiction, avec quelque chose qui laissait à son imaginaire aucune place. Donc je les ai éliminés vraiment au début pour me dire, voilà, de toute façon, on va comprendre, parce qu'il y a plein d'éléments qui permettent pas de comprendre et de situer quand même le sujet ailleurs. Mais comme il a indiqué à un moment donné, je crois qu'il n'est pas forcément nécessaire d'ajouter la violence et la lourdeur des mots à celle de ce qui est déjà dit et qui est évident et qui se suffit à soi-même. Donc, voilà, c'était pas pour. En tout cas, l'intention n'était pas que le texte soit une portée universelle ou quoi. C'était juste, en fait, finalement, pour parler mieux, peut-être, du Rwanda, en fait.
Mais pourquoi aborder ce sujet par le biais de la fiction ?
J'ai envie de dire parce que ça m'est venu comme ça. Mais l'autre raison, c'est que. En fait, j'ai toujours eu un problème avec les témoignages. C'est un problème personnel. Mais j'ai toujours eu un gros problème avec les témoignages. En tout cas, quand ils se présentent comme livre de littérature. Alors, on me contredira parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui sont des très grands livres et en plus que j'apprécie. Mais je trouve qu'au sujet du Rwanda, il y a eu, en tout cas une époque et peut-être encore aujourd'hui, une dérive. Et je crois qu'il était que la présentation et l'étalage d'une certaine souffrance à un moment donné, à mon avis, me paraissait déplacée, en tout cas juste brute. En fait, au lieu de divaguer, je vais vous raconter juste une très brève anecdote qui est arrivée après. Juste à la sortie du livre, je me suis retrouvé dans un endroit comme ici, où il y avait en face de moi quelqu'un qui a écrit un livre de témoignage sur le Rwanda, et moi. La personne a commencé de parler. Donc elle raconte, le livre parle entre autres choses de comment elle a vu sa famille et notamment sa mère massacrée. Donc elle raconte, elle explique, elles font en larmes parce que évidemment ce qu'elle racontait est insoutenable. Et à la fin, la salle était complètement glacée. C'est-à-dire que derrière ça, il n'y a rien à dire. Parce que c'est une expression d'une souffrance tellement entière, radicale, qu'il n'y a juste rien à dire. Et en tout cas, moi, dans ce qui me porte, j'ai envie quand même, en fait, que finalement tout ça devienne un motif d'échange et qu'il reste quand même une place pour le lecteur de s'impliquer, d'imaginer, pourquoi pas de sourire aussi parfois, parce que même dans les pires, oui, voilà, oui. Et ainsi de suite. Donc voilà, je me suis jamais senti à l'aise en tout cas dans l'angle du témoignage pour ces raisons-là. Et la fiction du coup est venue assez naturellement.
Oui, donne cette liberté-là, effectivement.
À moi encore une fois au lecteur aussi.
Oui. Karine Henry, vous êtes donc libraire, on l'a compris, puisque vous êtes intervenue tout à l'heure en tant que libraire. Est-ce que c'est un avantage ou un handicap quand on veut écrire son premier roman ? Est-ce qu'on ne se dit pas, mon Dieu, quand on voit les piles de livres
En fait, ça se joue pas comme ça. Les choses se font. On décide, en fait, on aime faire quelque chose, c'est-à-dire, moi, j'aime les mots, j'aime la lecture, j'aime, voilà, une sorte d'univers de cohérence qui se fait dans une vie, c'est-à-dire que, bien, il y a un moment où on décide d'être libraire, et puis on a toujours écrit, et puis on a envie d'écrire, et donc on écrit, et puis on ne se pose pas vraiment la question, voilà, ça se fait, il y a un va-et-vient. Il y a un moment où ça devient plus compliqué, effectivement, quand on est de plus en plus conscient qu'on est en train d'écrire fait un roman, qu'on travaille de plus en plus dessus, et puis là où ça devient véritablement compliqué, c'est quand il y a une publication. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas une situation confortable que je conseille. Enfin, c'est vraiment pas une situation agréable. Ça, c'est
la
sûr.
Publication, vous voulez dire.
La publication et le moment où en fait on se rend compte que il va y avoir, oui, au moment de la publication, c'est très compliqué à gérer. D'ailleurs, ça gère. Moi, je ne l'ai pas géré du tout. Être libraire et puis être écrivain, c'est deux choses que l'on doit absolument séparer, en tout cas pour moi. Est-ce que quand j'arrive et que je vois tous ces livres, etc., non, pas du tout. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose, c'est deux fonctionnements qui sont à la fois parallèles, qui se contaminent, qui s'entrechoquent, etc., mais on peut. Au contraire, moi, j'ai l'impression que quand je vois tous ces livres, ça m'encourage. Oui.
Oui, mais les deux circuits doivent se télescoper. Il doit bien y avoir de temps en temps un client qui arrive dans votre librairie et qui achète ce roman.
Le mien ?
Le vôtre ?
Ah oui, donc au niveau de la publication, non, par contre, là, c'est oui. véritablement un calvaire. C'est vraiment compliqué. Je veux l'anecdote pour éviter, comme vous dites, Gilbert. Il a raison d'éviter de divaguer. Je me suis retrouvée, donc moi, faisant mon métier à la caisse dans la librairie. Et oui, c'est arrivé. Voilà, quelqu'un qui m'a demandé mon livre. Mais j'étais incapable de le vendre, donc je l'ai donné une première fois, une deuxième fois, et en fait mais je pouvais pas, payer quelqu'un qui allait en plus qui me demandait mon livre, quoi. C'était plutôt moi qui était, enfin, donc je me suis retrouvée dans des situations,
on va vous donner l'adresse de la librairie, voilà. Après vous
allez... Non, mais on m'a interdit de caisse, là c'est terminé, et la même question, non, et je m'arrêterai là. Qu'est-ce qu'on fait avec la vitrine? Est-ce qu'on le met dans la vitrine? Est-ce qu'on le met pas? Mais pourquoi vous l'avez pas mis, votre livre? Pourquoi vous avez mis votre livre dans la vitrine? Et donc voilà, c'est vraiment pas agréable, c'est vraiment compliqué, donc bon, voilà. Mais c'est comme ça, voilà.
D'accord, c'est une épreuve. C'est une épreuve aussi pour vous, Scandercali? Non, ça n'a pas l'impression. Comment s'est passée la décision, si j'ose dire, d'écrire ce premier roman?
Il n'y a pas eu de
décision. Ça a été une impulsion, plutôt?
Non, plutôt des morceaux de texte qui s'accumulent et puis qui trouvent un sens, les uns après les autres, par strates.
Oui, mais encore...
Non, il n'y a pas vraiment un moment où on dit, il n'y a pas de réca, il n'y a pas de moment où on dit, tiens, je vais écrire un livre. C'est le livre qui progressivement se construit.
Il y a quand même comme un coup de colère, puisque ce garçon, Cissé, est quelqu'un qui est convaincu, plus ou moins, qu'il n'est pas à sa place, quoi, qu'il a justement une sorte de sang, le sang impur.
Le paradoxe, c'est que c'est quand même, c'est pas un coup de colère, c'est pas un cri, oui. Parce que c'est très structuré.
Oui, absolument.
Donc, c'est un cri structuré, donc ça devient une parole.
Mais quelle est la difficulté justement d'articuler cette parole?
C'est d'écouter, c'est de laisser le personnage s'exprimer lui-même. C'est vraiment essayer de trouver le ton, le rythme, le vocabulaire, l'éthique de langage. Et de laisser s'imposer et d'essayer de travailler le plus textuellement possible.
Oui, c'est un travail sur la langue. Mais là, vous travaillez comment sur la langue? C'est un travail sur le motif? Vous écoutez beaucoup?
Non, c'est sa propre énergie. Ça s'installe. Il faut laisser aller. Ça s'installe de soi-même, avec la rigueur, avec la contrainte de raconter quelque chose. Mais c'est un peu... C'est un peu opaque comme fonctionnement.
Alors, il y a une question qu'on a envie de poser, évidemment, à tous les auteurs de premiers romans. C'est le premier contact avec l'éditeur. Ça s'est passé comment? Parce qu'on nous a dit tout à l'heure que le nombre de manuscrits que reçoit un éditeur, que beaucoup de manuscrits sont envoyés par la poste. Je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai. Alors, dans votre cas, précisément, Scandercali, comment les choses se sont-elles passées? Et pourquoi avoir choisi, par exemple, le Rouergue? Catalogue, en raison comment se fait cette décision?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas si c'est particulier, mais moi, ça s'est passé en deux temps. Donc, c'est pas. En fait, ça a duré 3 ans et demi pour l'écriture, et dès le premier envoi, donc je connaissais personne, ça sortait de mon imprimante, j'allais faire relier, je mettais dans une enveloppe et j'envoyais. Donc, j'ai envoyé à 3 grands éditeurs que je connaissais absolument pas, de manière absolument anonyme. Ça, c'était en début 2004, et j'ai eu la chance d'avoir un grand éditeur qui s'est intéressé tout de suite.
Qui vous a répondu, donc.
Qui m'a répondu, qui était très, très positif, mais qui, donc c'était un des 3, 4, 5 grands, hein, vraiment, et qui, bon, m'a demandé des petites modifications. Alors, les lecteurs, donc il y a un système de lecteurs de maisons d'édition, étaient, eux, avaient émis un avis favorable. Mais l'éditrice, en l'occurrence, demandait certaines modifications. Mmh. Et donc, bon, là, j'étais assez impressionné.
Et donc, impressionné du fait qu'il y a eu une lecture attentive et réelle.
Oui, exactement. Oui. Et en plus, c'était la première tentative. Donc, vraiment, là, j'étais absolument vierge. Et progressivement, donc, je me suis laissé le temps. Je ne voulais pas me faire happer. Et donc, j'ai renvoyé un an et demi plus tard. J'ai renvoyé. Et puis, alors là, les avis de lecteurs étaient très favorables. L'éditrice était positive aussi, mais là, ça n'a pas marché au comité de lecture.
Mais vous aviez retouché le texte entre
oui, temps. Oui, j'avais retouché. Voilà, ça fait de nombreuses versions. Et puis, un peu de temps a passé, j'ai tenté d'autres éditeurs. Certains m'ont encouragé par courrier, mais ça ne donnait rien. Et puis, à la fin, je suis arrivé. Il restait le Rouergue, qui était une maison qui avait une bonne qualité. Quoi. C'est un label qualité. Donc ça m'intéressait, surtout pour ce texte-là. Et donc, j'ai envoyé au Rouergue. Le Rouergue m'a accueilli et pour tout dire, la première rencontre, je croyais que ça allait être encore des encouragements, me disant bon, votre texte est pas mal, je voulais juste voir qui vous étiez, hein, parce qu'en fait, en général, c'était comme ça. Et puis non, alors on s'est vu au Rouergue, Madame Gracia, l'éditrice, avait vraiment travaillé le texte de manière assez précise. On en a parlé de manière vraiment... Oui, précise et puis très, très littéraire, ce qui m'a intéressé. Et puis voilà, quelques jours après, m'a appelé pour me dire que c'était bon. Mais bon, il n'y avait rien de particulier parce que j'étais préparé par un certain...
Oui, vous avez fait le parcours du combattant. Finalement, vous avez eu la chance d'avoir de l'écho tout de suite, en tout cas, d'avoir du répondant. Et...
Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je n'ai pas trop souffert. Et avec le recul, tout s'est bien passé parce que finalement, ça m'a permis à chaque fois de retravailler le texte.
Et la publication elle-même, est-ce que c'est une épreuve, comme le dit Karine, ou est-ce que, au contraire, c'est l'aboutissement de...
Bah, très concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on travaille sur le traitement de texte, et puis on arrive sur les épreuves. Et donc là, l'épreuve, le texte est mis de... C'est vraiment la mise en page de l'éditeur.
Ça ressemble à un
livre, oui. Voilà. Donc là, il y a une modification très concrète, et ce qui est intéressant, c'est de voir si vraiment votre texte est suffisamment solide pour passer du traitement, de la version traitement de texte, à une mise en page vraiment finale. Et donc là, il y a une modification qui fait... Là, j'avais l'impression que c'était un livre, mais bon, à part ça, à part cette étape très concrète, je n'ai pas ressenti particulièrement de...
Karine, Henri, comment s'est passée la publication alors ?
Moi, c'était un peu compliqué aussi. Ça s'est passé durant 10 années, en fait, parce que j'ai commencé en 97. J'avais pas... j'écrivais à droite et à gauche, pareil, des fragments, des carnets. Et puis, je me suis dit un jour, ouais, voilà, que si je continuais comme ça, je n'allais pas... peut-être qu'il fallait que j'essaie ce roman dont j'avais vaguement l'idée d'écrire un roman. Et puis, comme je dis, d'un coup, les textes que j'écrivais me sont apparus comme la trace de quelqu'un qui aurait essayé d'écrire un roman, mais qui... n'aurait pas pu, en fait. Il serait resté, en fait, plus ou moins embourbé, je dirais, dans ses textes, ses carnets, méta, auto, je ne sais pas quoi. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas se demander qui aurait écrit ces textes ? Pourquoi elle n'aurait pas pu dépasser, justement, la matière pensée, pourquoi ne pas avoir réussi à dépasser ça, à fictionner, à aller rencontrer l'autre par le biais de la fiction. Pourquoi donc, et il m'a semblé qu'entre ces carnets, on pouvait raconter l'histoire de cette personne. Et donc, c'est là où je suis, où Barbara, donc l'écrivain, l'écrivain du roman, en fait, cette espèce de personnage d'absolu, qui fait partie de ces êtres qui ne peuvent croire à leur existence que si elle est inscrite dans un grand projet pour lequel elle veut tout sacrifier, et donc il la rend complètement incompatible au réel, inapte au matériel.
La vie,
voilà, bon, bah, tout cela en fait fait que je me suis dit bon bah voilà, il y avait l'histoire, il y avait quelque chose là, et qui pouvait raconter ça, un être proche, alors peut-être sa sœur, tout ça, voilà. Et puis, tout ça en me promenant, en fait, je me rappelle, je me promenais pas mal, et c'est en trouvant le titre là, des œuvres, en ramassant des champignons, que je me suis dit bon bah ouais, est-ce que la des œuvres, voilà, ça faisait la boucle, voilà, on écrivait le livre qu'on lisait était écrit à partir du livre qui n'avait pas pu se faire, etc. Bon. Et puis j'ai commencé, je l'ai fini au bout de 5 ans, et là, en fait, au moment de l'envoyer, et au moment où j'ouvrais ma librairie, je l'ai perdu informatiquement par certainement un acte manqué parfait.
Ça, c'est l'horreur, vous avez détruit le...
Ouais, c'est une histoire un peu compliquée, mais en tout cas, il ne me restait plus rien, voilà. Plus rien que les carnets qui avaient servi au début, en fin de compte. Donc voilà, retour à zéro.
Donc après 5 ans de travail.
Ouais. Et donc là, c'est un... Enfin, c'est,
vous avez dû passer par des moments de découragement.
C'est-à-dire
quand même
que j'ouvrais la librairie et là, je ne pouvais plus toucher un bouquin. Quoi. Je ne voulais... J'étais jalouse de tous les bouquins. C'était l'horreur. Quoi. Je ne pouvais plus du tout rien, quoi, les livres. Et puis, c'est Pénac qui est le parrain de la librairie, en fait, et qui m'a dit...
Qui s'appelle Comme un roman. Hein, ouais, c'est intéressant, oui, comme le titre de Pénac.
Qui m'a dit, bah, écoute, soit tu t'en fais un prétexte pour tes vieux jours, puis tu diras, j'ai été traumatisée, ou bien tu dépasses ça, et puis tu t'arrêtes et tu y vas, tu recommences. Donc, j'ai recommencé. Et 3 ans après, je l'ai envoyé à un éditeur chez Actes Sud, qui est l'éditeur de l'auteur que j'estime le plus, qui est Henri Beauchaud. Donc je l'ai envoyé à Bertrand Ampy et sa réception a été positive en m'expliquant bien qu'il y aurait un énorme travail. Mais sa perception en fait, de la chose était incroyable et son approche littéraire était... Moi, j'ai été complètement fascinée par sa lecture et par le courage qu'il avait de dire « Ok, on y va, mais ensemble ». Ça a duré encore 2 ans et demi, 3 ans. Et voilà, je ne sais plus, mais en tout cas, au bout de 10 ans, c'est sorti. Mais bon,
Oui, c'est
mais bon, c'était, je voulais dire que ce n'était pas qu'une épreuve, la publication. C'était une libération aussi. Il y a une émulation, une excitation. Mais après, il y a quand même, en tout cas pour moi, une phase de dépression. Après, on monte dans un truc comme ça et sûr. Boum, après.
Oui. Gilbert Gatteret, dans l'histoire de la publication, même de ce premier roman.
Je me rends compte du coup que c'est assez différent parce que, enfin, en ce qui me concerne, ça a été très rapide tant dans l'écriture que, en tout cas, surtout dans l'écriture, parce que j'ai passé alors beaucoup de temps à y penser. Et je me rends compte que ça se reproduit de la même façon aujourd'hui. En fait, c'est que j'ai une idée assez précise et très détaillée du texte dans ma tête. Des fois, avant de dormir, je me dis, alors, cet endroit-là, je vais peut-être faire comme ça, mettre ça avant, mettre ça après, mais sans rien écrire, en fait. Donc, je prends des notes d'autres choses, mais je ne l'écris pas. Et puis, à un moment donné, il me semble que c'est fini dans ma tête. Et là, je me mets à écrire, mais du coup, ça va vite, en fait, parce que j'ai pas l'impression de chercher le livre, mais c'est prêt. Enfin, c'est un peu exagéré de dire retranscrire non plus, parce que c'est pas non plus aussi fluide que ça. Mais c'est quand même plus du côté de la retranscription que du côté de la quête vraiment du propos. Vraiment tout dans ma tête, tout est le titre, les parties, les personnages, la succession de toutes les intrigues, enfin en tout cas de toute la ligne, ainsi de suite. Je l'ai à ce moment-là. Donc, j'ai l'écrit très vite. Je pense que j'ai dû. Le temps vraiment d'écriture, ça a dû être 3 ou 4 semaines, jour et nuit. Voilà. Et une fois que c'était fini, c'était un cauchemar là pour une autre raison, parce que comme j'écris à la main, il fallait tout taper. Et donc, j'ai tout tapé patiemment. Là, ça a duré beaucoup plus longtemps parce que j'en profitais pour revenir sur certaines choses et tout ça. Et puis, au moment où c'était fini, un peu comme Scandère, je l'ai envoyé aux 2 ou 3 des éditeurs que je considérais le plus. Et j'ai eu des réponses très rapides, négatives, dont une était tellement rapide qu'elle était datée, la lettre de réponse était datée du même jour où j'avais déposé le, le manuscrit chez l'éditeur. Donc, c'était vraiment radical. Donc, j'ai eu un petit moment de doute. Et à la fin, en fait, j'ai vraiment eu une chance en mangeant avec un ami dans un restaurant. Il me dit, donc je lui racontais le truc et tout ça, et en fait il se trouvait que derrière il y avait d'autres amis à lui. Donc je lui parle du livre que je vais sans doute mettre dans un coin puis écrire un autre et tout ça, et puis en fait ses amis à lui qui étaient derrière nous ont entendu. Il y en a un qui est rédacteur en fait en chef d'un magazine littéraire connu. Et qui me dit, écoute, je vous ai entendu, si ça te dit, envoie-moi ton manuscrit, je le lirai, et puis si c'est pas bien, je te dirai, et si c'est bien, je te dirai aussi. Il a lu, il a beaucoup aimé, et donc en fait, du coup, il m'a recommandé auprès de 4 autres éditeurs. Et là, pour le coup, les 4 ont dit oui.
Ah, oui.
Donc, c'est sans mérite, j'imagine, pour le texte, parce que c'est probablement un peu pour cette personne-là. Et j'ai été chez Phébus, parce que c'est là où j'avais eu... la note de lecture qui m'a vraiment le plus touché. Il y avait une note de lecture écrite à la main de 6 pages avec commentaires très précis sur tous les passages, ce qu'elle avait aimé, ce qu'elle n'avait pas aimé, pourquoi, ce qu'elle proposait, et ainsi de suite, tout en sachant qu'elle disait à la fin, si tout ceci ne vous semble pas pertinent, de toute manière, on est prêt à le publier comme tel. Donc, du coup, on a travaillé ensemble un peu, et puis il est paru.
François, on va peut-être écouter un nouvel extrait, d'autant plus que Gilbert va te voir.
Alors, je ne sais pas si les extraits durent longtemps, parce qu'il faut absolument que je me sauve à 21h30.
Vous devez partir à 21h30 ? Oui. Alors, je vais lire un extrait de vous, alors.
Désolé.
Le passé devant soi. 65. L'image des chèvres est apparue à Nico comme un éclat de lumière. Il s'est souvenu avoir suivi son oncle Gaspard, qui de temps en temps partait à l'écart du village avec des chèvres agitées et habillées et les ramenait sur ses épaules, dénudées et silencieuses. Du seau qu'il tenait dans une main dépassait toujours à l'aller la pointe brillante d'une machette et au retour, la peau ensanglantée de l'animal. Un jour, Nico avait suivi son oncle parce qu'il avait choisi pour l'égorger une bête à laquelle il tenait plus que tout. 66. C'est une chèvre à laquelle Nico avait essayé d'apprendre à parler. Pour gagner la confiance de l'animal, il avait commencé par lui donner un nom. Il choisit de l'appeler Nico, comme lui-même. Ensuite, il avait décidé de vivre comme lui, seule façon de comprendre comment il fonctionnait. Pendant plusieurs mois, les deux Nico passèrent donc ensemble le plus clair de leur temps, inséparables, à téter, à brouter et à courir l'un derrière l'autre. Même si dans cette dernière activité, il faut le dire, c'est plus Nico qui courait derrière Nico que le contraire. Le soir, avant le coucher, Nico s'appliquait à apprendre au biquet les subtilités du langage des humains. Étant lui-même muet, il y a évidemment des détails dans lesquels il ne pouvait pas entrer. 67. En fait, l'apprentissage se fit d'une façon dont personne ne peut prétendre avoir compris le secret. 68. En y repensant, il paraît à Nico que la fête pour laquelle son homonyme animal avait été égorgé avait été fictive. On avait voulu le priver du seul être qu'il aima. Il en garde une profonde blessure qui lui refait mal lorsqu'il y pense, longtemps après. 69. Lorsqu'il avait vu Gaspard entrer dans l'étable avec le seau au fond duquel rutilait la lame d'une machette, il avait su ce qui allait se passer. Nico allait partir entier et revenir en deux parties, la peau dans le seau et le reste sur les épaules de son oncle. Il avait pensé à empêcher Gaspard de faire du mal à Nico, mais quelque chose l'en avait dissuadé. Il avait vu le chevreau être mis en laisse, puis tiré loin du village. Il avait deviné derrière les bêlements affolés les prémices d'un langage intelligible, fruit de toute sa patience. Il avait suivi son compagnon, discrètement, jusqu'au ruisseau où, sans cérémonie, la machette infaillible de Gaspard l'abattit d'un coup net à la nuque. Il avait vu Nico tenter en vain de se défaire de la prise ferme de Gaspard, puis s'immobiliser comme si, une fois la mort certaine, la victime avait compris qu'il était de son intérêt de coopérer. Il avait ensuite observé la manière dont son oncle avait suspendu Nico inerte, la tête en bas, pour le débarrasser de sa peau et de ses entrailles. Il avait même aperçu dans la fumée qu'exhalait la chair rose s'envoler une âme intelligente et déçue. Pendant que Gaspard s'était mis à laver la machette et à nettoyer les abats à l'eau du ruisseau, Nico était retourné dans l'étable où il passa la nuit. Depuis ce jour, il ne prit plus le risque de se lier à qui ni à quoi que ce soit. La désœuvre. Ma. 3 novembre, 6h02. L'enfant ne voulait pas. L'enfant avait froid. La mère s'essoufflait, poussait la vie hors d'elle. L'enfant ne l'aidait pas. Extrait de vie pris dans l'enceinte des chairs. lèvres écartelées dans l'œuvre du corps. Puis soudain, expulsion, vie jaillit. Ainsi mes cheveux noirs comme les siens, et dans son regard le mien. Mais désormais, alors échoués aux marges du passé, nos deux corps priant pour que tout dure encore. Ma, un seul regard suffit à te voir vieillir, ton éclat est fragile, je te sens menacée. Mais où t'abriter et de quel risque? Je m'épuise à te penser pour te faire éternité. Je m'épuise à te faire idée pour te penser éternité. Car personne ne pourra plus que toi participer de mon essence. Personne d'autre que toi qui ne soit de la même substance. Moi, un membre arraché de toi. Pourquoi es-tu ma mère, une amie, une maîtresse, et nous aurions vieilli ensemble? En ayant grandi tout près de toi, j'ai usé déjà beaucoup du temps qui nous est alloué. Ma, aucun de ces textes ne t'est destiné. Aucun jamais entre tes mains. Davantage encore, il creuserait le vide laissé par moi en toi, cette béance que ton ventre refuse d'oublier. Pourtant, je dois partir et vivre pour un jour tenter de te survivre. Mais où aller alors? Où ne serait cette peur de te perdre qui m'infirme? Les rapprochements physiques avec mes aimés me terrorisent. Ces bras qui m'agrippent convoquent en moi une douleur encore jamais ressentie, mais que je pressens immense. Durant ces corps à corps, j'étreins la mort des leurs. Contre le sein, j'entends l'arrêt du cœur. Et déjà, mes aimés disparaissent d'entre mes mains, bref, en vol mortel, ne laissant que vide à embrasser, cendre à piétiner. Alors, refuser ces attouchements morbides, contourner les chairs mortelles, qu'elles deviennent marbre absolu et éternel. Mes aimés, un à un, par moi statufiés. Mais comment repousser le corps de Ma qui s'offre pour guérir la souffrance de nos corps à jamais séparés. De l'une et l'autre, rien ne domine ce besoin infus, brut et total, à ne plus savoir qui de la mère ou de la fille. Ma, nous vivons ensemble plus qu'en famille. Nous la sommes. À la périphérie de ce noyau de feu, le reste doit être discret, retiré dans l'ombre de notre empire.
François, je m'excuse de vous interrompre, mais on va juste faire une petite pause avant d'entendre le texte de Skander Kali, parce que je crois que Gilbert, malheureusement, doit nous quitter. C'est tout à fait impératif.
Oui, je suis navré de faire ça. C'est très désagréable, mais voilà. Il
faut mais merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. On sait que vous êtes très sollicité. Puis que
non,
vous avez peut-être
c'est surtout que j'y tenais, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le festival de Chambéry, avoir eu la chance d'y aller, c'était quand même un bon moment, un grand moment même, j'ai envie de dire. On a vraiment rencontré des gens qui aiment lire, qui avaient beaucoup lu les livres, des discussions étonnantes et passionnantes souvent avec les gens. Donc c'était presque un devoir d'être ici. Enfin, ça ne m'est pas venu à l'idée de pas venir. Bon, après, je ne peux pas rester très longtemps.
Merci d'être venu en tout cas. Merci, bravo à vous Gilbert.
Je vous le donne.
Pardon, François, de vous avoir interrompu.
Abreuvons nos sillons. Le lendemain après-midi, je me suis pointé en salle 42 pour faire ma colle. C'était mon prof principal, M. Traoré, qui devait me surveiller. Traoré, c'était un pauvre type. Le genre de mec apportait un anorak bleu et blanc tout pourri avec des coutures rouges. Même ma petite sœur, elle n'en aurait pas voulu de son foutu anorak. En plus, il se mettait un bonnet vert sur la tête, la misère. C'était un prof de français tout naze. Jamais vu un prof aussi foireux. Il faisait cours avec sa grosse voix d'Africain. Comprenait que dalle à ce qu'il disait. On faisait de la grammaire. C'était trop pourri. Je pigeais que dalle. On faisait des rédactions aussi. C'était des rédactions à 2 balles. Une fois, j'ai eu 10/20. De toute façon, je faisais jamais mes devoirs. J'avais 0. je levais jamais le doigt. Pendant ces cours, je me contentais de regarder par la fenêtre. Je pensais à l'avenue Stalingrad. Je pensais au 183 qui, un jour, m'emmènerait vers Paris pour rejoindre Mademoiselle Baudricourt. Je me demandais si elle pensait à moi. Je m'ennuyais tellement en cours que je lisais des mangas. Je lisais Kenshin, le vagabond solitaire. J'adorais. Ça m'apprenait le kendo. Je suis entré dans sa salle pour faire ma retenue et Traoré m'a filé une punition. C'était un questionnaire super long sur le Cid, la pièce de théâtre de Tarlouze qu'on étudiait en classe. Traoré m'a dit d'aller m'installer au fond. J'ai sorti mon exemplaire du Cid et je me suis mis à répondre aux questions à la con. Dans ce bouquin, les personnages y parlent en alexandrin. Rien que ça, c'est déjà une manière de vous embobiner et de déformer la réalité. Ils disent le contraire de ce qu'ils pensent. Corneille, le crevard qui a écrit cette foutue pièce, il est comme tous les adultes. Il est hypocrite. Même à un moment, il y a un vers tout foireux où cette Tarlouze de Rodrigue dit « Je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu ». Cette phrase, elle me foutait les boules. Alors j'ai continué un peu à écrire. Et puis, comme il n'y avait personne d'autre dans la salle, je suis allé voir Traoré à son bureau. Je lui ai tendu le livre. Je lui ai montré le vers. Monsieur, le sang pur, ça veut rien dire. C'est le sang des aristocrates. Voilà. Il n'arrêtait pas de dire voilà. C'était pour faire croire qu'il vous avait expliqué quelque chose, qu'il vous avait donné un argument. Mais en fait, c'est foutu. Voilà, c'était pour dissimuler sa connerie. Alors, c'est quoi le sang impur? C'est le sang des roturiers. Les roturiers. Les paysans, les commerçants. Les bâtards, les pauvres. Oui, voilà. Mais il n'y en a pas dans le Cid. C'est normal, c'est une tragédie. En fait, les gens qui n'arrêtaient pas de causer et de raconter des bobards dans le bouquin, c'était le sang pur. Et ceux qui n'avaient pas la parole, ceux qui n'étaient pas dans l'histoire, c'était le sang impur. C'était comme ça dans la littérature. Les sales races étaient priés de fermer leur bouche, de disparaître ou d'être des victimes misérables. Si c'est au XVIIe siècle, la France était une monarchie. Ça a changé après. Après quoi? La Révolution française. Les bâtards ont eu la parole? Il a remué la tête d'un air écœuré. Un peu. Il essayait de m'endormir. J'arrivais pas à avaler ce baratin de sang pur. Je me souvenais de la chanson toute naze que les mecs chantent avant les matchs de foot quand ils disent « qu'un sang impur abrège nos sillons ». Même que j'ai jamais compris ce que ça voulait dire le mot sillon. On est resté un moment à se regarder en silence. Et puis ça a sonné. Traoré, il s'est mis à ranger ses livres dégueulasses dans sa mallette en cuir. Mais j'avais autre chose à lui dire. J'avais un peu honte de lui en parler, c'était un truc intime, physique, médical même. Alors j'ai un peu attendu. Et puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai demandé comment ça s'appelait quand on se sent pas bien, quand on a envie de vomir, quand on a comme des vertiges. Ben voilà, on est souffrant, si c'est. Non, monsieur, je connais ce mot, mais c'est pas ce que je ressens. Traoré, il comprenait vraiment rien. Il s'est gratté la tête et il a fait « Ben, c'est peut-être comme le mal de mer, ce serait une forme de nausée. » Ouais, la nausée, je crois que c'est ça. C'est un côté existentialiste, voilà. Et il a souri. J'ai rien compris à sa vanne pourrie. C'est à ce moment-là que j'ai eu envie de le brûler, lui et son sang de bâtard. Je le regardais, il me regardait, et lui, il ne savait pas que j'allais le brûler comme les Anglais ont cramé Jeanne d'Arc.
Arnaud Bertina expliquait que dans ce qu'il aimait, c'est aussi rencontrer justement d'autres auteurs pour travailler avec d'autres auteurs, écrire dans des travaux collectifs de façon à justement, je ne sais pas moi, repérer certaines tendances des écritures contemporaines. Est-ce que le fait de vous être retrouvé ensemble à Chambéry, regroupés par la volonté des lecteurs, en définitive sans vous connaître forcément avant. C'est quelque chose qui est important, qui peut...
En tout cas, pour moi, c'était absolument précieux. J'avais, pour la première fois, la possibilité de parler en tant que personne ayant écrit un livre, avec d'autres personnes ayant écrit un livre, simplement, avec les mêmes questionnements. Ce qui m'a beaucoup apporté, c'est de comprendre, comme disait Arnaud tout à l'heure, que j'étais pas la seule à chercher dans telle voie à fonctionner en. Par exemple, ce que disait Gilbert, je me rends compte que ce qu'il est en train de décrire, ce qu'il a décrit là, c'est exactement ce qui m'arrive. Et entendre ça, plutôt que se dire « Ah merde, je suis pas l'unique à fonctionner comme ça, je n'ai pas cette singularité, comme oui. disait Arnaud, trop romantique pour être vrai », eh bien, cela conforte, cela aide, cela permet de continuer, de creuser. Et puis, il y a une autre chose aussi qui était très importante. Quand on est auteur d'un premier roman, on n'est qu'auteur d'un premier roman et que c'est très difficile d'organiser sa vie autour de l'écriture. Ça l'a toujours été dans la société, enfin, autour de n'importe quel art. Donc, qui demande du temps. Comment on fait pour écrire chaque jour quand on veut écrire chaque jour? Comment on fait pour bosser à côté? Enfin bref, comment on organise sa vie? Eh bien, de se retrouver avec des auteurs à Chambéry, comme il était le cas là, nous a permis d'échanger énormément sur les difficultés en fait d'organisation, sur la manière de chacun de trouver son rythme entre le premier, le second et le deuxième roman. Tout cela, ce sont des échanges qui sont précieux. Et puis tous les échanges théoriques. Moi, je me rappelle avoir eu un duo. Où j'ai fait un face-à-face avec Skander Ali, où je l'ai entendu parler de la manière dont il travaillait à partir de la voix, à partir du moment où le personnage plaçait sa voix, et d'où, le roman s'écrit à partir du moment où on le sait pourquoi le personnage parle. Qu'est-ce qui va faire que le personnage va parler? Voilà. Enfin, tout cela m'a donné énormément à penser. Et d'ailleurs, je pense toujours à tout cela. Voilà, c'est une matière précieuse qui est là. Ces échanges-là, il faut surtout que le Festival de Chambéry continue, quoi.
Oui, oui. Ah, oui. Non, mais on en est tous convaincus. Ah, oui. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est un lieu assez unique de ce point de vue-là.
Ah, oui,
de ces échanges. Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où on puisse savoir.
Le fait qu'il n'y ait pas de prix est très important. Le prix, le fait qu'on arrive, on est 14 et on repart, on est 14. Il n'y a pas eu un élu. On était 14 élus. Ça permet une bienveillance entre soi et une liberté totale des échanges.
Oui. Skander Kali, comment la. Avez-vous vécu cette expérience de la même, comme le dit Karine aussi, avec des échanges de, eh bien, de problèmes que vous pouvez avoir en commun ou de.
Pas vraiment.
Non.
Donc, de toute façon, c'est très convivial, c'est un festival vraiment fondamental avec de rapport avec les lecteurs.
Oui.
Et puis tout ce qu'on peut échanger, toujours bon d'écouter les autres. Tout est bon à prendre, hein, mais bon, je suis pas vraiment dans l'échange d'auteurs, plutôt avec les lecteurs.
Avec les lecteurs. Oui, c'est quand même quelque chose d'avoir en face de soi des lecteurs qui forcément connaissent bien le livre, l'ont lu, vous ont invité parce que justement ils ont aimé le livre.
Ah oui. Hein. Oui, et puis il y a vraiment des lecteurs chevronnés avec des séances assez intenses.
Vous avez été surpris des questions qu'on a pu vous poser, justement, que les sélecteurs vous ont posées, ou déroutés parfois?
Non, plutôt. Non. Non, pas par la nature des questions, plutôt par la qualité des questions et le niveau d'interprétation, le niveau d'attente, et puis aussi les références culturelles. Non, c'est vraiment le bon niveau, c'est vraiment un festival de bon niveau en termes de lecture. Et c'est vraiment exigeant. Et puis, voilà. Les gens sont en attente, il faut leur donner quelque chose. Donc vous êtes un peu épuisé à la fin des conférences.
Oui, ce qui est bon signe. Alors, on a envie toujours de poser, évidemment, aux auteurs de premier roman la question du deuxième. Alors, je ne sais pas comment elle se situe pour vous, pour chacun d'entre vous.
La question, c'est, en fait, c'est quand même un peu lié au festival. Bon, il n'y a pas que le festival, il y a d'autres événements et d'autres, tout simplement, le rapport qu'on peut avoir régulièrement avec les lecteurs. Une chose est sûre, c'est que le festival met la barre assez haut. C'est un public exigeant. Donc, ça, c'est très bien. Mais bon, on sait qu'on va être lu à la phrase près. Donc, ça demande un niveau d'engagement. Donc, c'est très stimulant. Intellectuellement et créativement, c'est très stimulant. Donc, Chambéry, bien entendu, mais d'autres. On sait qu'on va être lu de près et les connaissants ne vont pas manquer de questions et il faudra être capable de la répondre. Donc, ça met la barre très haut. Je pense que ça, c'est le genre d'événement qui monte vraiment le niveau. Et donc, ça met une certaine pression. Pour être plus précis, bon, moi, le second roman est quasiment fini, mais le travail de réécriture, c'est vrai que je penserais à Chambéry, bon, à Chambéry et à d'autres événements, ah oui. En me disant que, bon, là, bon, on ne peut pas saccager. On ne peut pas saccager. Bon, alors surtout, bon, Abreuvons-nous-sion est quand même un texte assez dense. Là, vous ne pouvez pas, par exemple, après Chambéry, vous ne pouvez pas saccager une description, vous ne pouvez pas saccager un passage de chapitre à un autre parce que quelqu'un va le voir, va le percevoir. Et,
ah oui, c'est ça, vous savez.
Et comme c'est très, très sincère et très honnête, ils vous le diront, je crois.
Oui. Et alors, en plus, vous savez que de toute façon, premier ou deuxième roman, de toute façon, vous serez lu à Chambéry parce qu'il y a même, ce dont on n'a pas parlé, mais un comité de suivi. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que les auteurs qui ont été invités sont assurés d'être lus pour le restant de leur œuvre.
Ça, oui, le comité de suivi, c'est rassurant quand on est animateur, pas quand on est auteur.
Ben oui, mais quand même. Ça vous garantit en tout cas un public, mais un public exigeant. Comme... Karine, Henri, est-ce que vous êtes...
Moi, pour le deuxième ou le second, je pense en tout cas que Chambéry a été déterminant pour moi. Après 10 ans de travailler sur un seul roman, c'est très difficile de passer à autre chose. Et enfin, en tout cas, pour moi, j'avais peur que ce soit pathologique. 10 ans sur un roman, voilà, est-ce que je suis capable d'autre chose? Est-ce que je suis l'écrivain d'un seul roman? Ça arrive. Donc cette peur-là était assez pétrifiante. En même temps, pourtant, j'avais une idée depuis 6 ans assez précise dans laquelle je me suis engouffrée tout de suite dès la parution, mais engouffrée par la recherche, non pas par l'écriture.
Oui, oui.
Et puis, peu à peu, j'ai réussi à faire une sorte de plan, en fait, comme Gibert, mais cette fois-ci écrite. Et je me suis aperçue, en fait, que l'écriture d'un roman n'est pas autre chose que la mise à l'épreuve d'un questionnement auquel on croit avoir la réponse, mais on va écrire le roman pour savoir si, véritablement, c'est cette réponse-là qui serait la bonne, en fait. Il me semble que c'est cela. Alors, comment arrive Chambéry là, dans une période de doute, au moment où je me mets à la rédaction, le tremblement, le trouble, je n'arrivais pas à m'autoriser à passer au deuxième, et Chambéry est arrivé, et ça m'a complètement, ça ne m'a pas enlevé les doutes, parce que je crois que rien ne me les enlèvera jamais, mais ça m'a autorisé. Et oui. Le regard, le questionnement, la lecture... je dis ça sans démagogie aucune, c'est véritablement ça, le regard, ces gens qui nous attendaient là à Chambéry, on n'est que des auteurs de premier roman, toute cette énergie dans la ville, les gens, d'un coup on se dit bon bah ouais ok, alors j'ai écrit un livre, il y a des gens qui viennent et donc ils attendent aussi peut-être, tout ça en fait ce sont des images voilà, qui sont quelque part et qui autorisent à continuer, et ça c'est ouais, inestimable. Et d'ailleurs je salue en fait 2 personnes incroyables, 2 lecteurs incroyables.
C'est vrai.
Oui, bah, qui viennent du nord de la France, qui sont allés à Chambéry et qui aujourd'hui sont là dans la salle. C'est incroyable, voilà. C'est juste. C'est. Voilà. Ben ouais, ils sont là.
Oui, oui absolument. Eh bien, bravo, bravo
c'est
à eux.
C'est José, aussi. C'est José, son mari.
Voilà.
Moi, je les ai rencontrés au Touquet.
Ah voilà. Oui, au Touquet aussi.
En novembre.
Voilà. Ah ben vous commencez, vous connaissez comme ça votre comité de soutien, si j'ose dire.
Assez réduit.
Ah ben non, quand même. Hein. C'est non, pas ben, seulement la quantité.
Quand ils sont deux, ça va. Ouais.
En tout cas, prenez soin de faire des sauvegardes sur votre ordinateur. Hein, oui. Voilà, achetez-vous une clé USB ou quelque chose. Oui. Soyez très prudente. Peut-être avez-vous des remarques, des questions. On est resté un petit peu à la surface des choses, là, mais je pense que c'est effectivement plus important d'entendre les textes, comme le disait tout à l'heure Gilbert et vous-même. Mm. Non, vous n'avez pas aucune interrogation particulière sur les... Oui.
Oui, j'avais une remarque pour Skander Kali, que je connais personnellement, donc c'est... Mais je voulais rendre hommage à la lecture de... qui en a été faite, parce que elle éclaire le fait que ce texte m'avait semblé dans un premier moment uniquement tragique. On en avait parlé ensemble. Skander m'avait dit que c'était aussi un texte comique. Et là, à la lecture, il y avait cette dimension-là. Et ce basculement dans les deux extraits entre le comique et le tragique, il a été très bien, à mon avis, mis en valeur. Et voilà, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose que je voulais dire, s'il fallait lire le livre de Skander, c'est, voilà, vous avez lu ou peut-être vu Entre les murs de Bégodeau. Ça, c'est la version oui-oui. Et vous avez la version brute d'Abreuvons-nos-sillons. Voilà ce que je voulais dire.
Oui, c'est pas mal quand même comme... Oui, non, mais d'accord, mais la formule est belle. Vous reconnaîtrez quand même que ça ferait un bon bandeau de couverture. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques.
Il y a juste un truc, moi, je voudrais, parce que
oui,
je sais qu'il y a dans la salle, il y a une personne qui hésite à écrire, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est important quand on croit, qu'on a envie d'écrire un premier roman ou qu'on hésite, enfin un roman en tout cas. Se dire qu'il est bien plus risqué de ne pas essayer que d'essayer.
Bon. Un bel encouragement. Alors prenez le risque. S'il n'y a pas d'autres questions, François, il y avait un autre extrait peut-être. On va terminer par donc un petit moment de lecture.
Même si Gilbert Gattore est parti, on va... Donc, le passé devant soi. Pourquoi les différents moments d'une vie ne font sens qu'une fois qu'on les a traversés? La vie est-elle en somme une marche à reculons? Contrairement à ce que l'on affirme souvent... Pour se rassurer peut-être, ce qui est devant soi, n'est-ce pas le passé plutôt que le futur? L'avant et l'après peuvent-ils être vus comme une seule et même chose? Pourquoi pense-t-elle ceci? Allez savoir. Maintenant, elle croit comprendre ce qui l'a poussée à se comporter avec ses parents comme elle l'a fait, ce pourquoi elle les a désignés comme les ennemis de son bonheur. Son explication est un peu tortueuse, mais assez proche de la réalité. Ce que la générosité de ses parents lui a enlevé, c'est de pouvoir être orpheline, de l'être sans circonstances atténuantes, d'en être anéantie ou d'en renaître. Ils l'ont privée de la possibilité d'être submergée par la tristesse et d'en émerger. Avant même qu'elle réalisât qu'elle était noyée, ils la sortirent de l'eau, lui offrirent des habits secs et une tasse de chocolat chaud. Ils l'éloignèrent du lac, où le destin semblait pourtant avoir décidé qu'elle dût mourir. Ils la poussèrent à avancer et l'entourèrent tant et si bien que le lac disparut de l'horizon avant qu'elle pensât à se retourner. Peut-être leur en voulait-elle de l'avoir distraite du deuil de ce que la chance avait oublié. En la sauvant, il ne lui avait pas permis de pouvoir se plaindre de ce qui lui était arrivé. C'est bien là le problème avec les anges. Leur générosité empêche que s'accomplissent la cruauté et l'absurdité auxquelles sont condamnés les humains. Leurs ailes prévenantes protègent et gênent. Comme on le lui rappela trop souvent, il ne fallait pas oublier qu'elle était malgré tout chanceuse d'être toujours en vie. Elle dut s'accrocher à ce silence et à cet oubli comme une façon de dire sa gratitude, paraître heureuse pour ne leur donner aucun regret, feindre que ce qu'elle avait grâce à eux compensait ce qu'elle avait perdu. Pour l'anniversaire de ses 18 ans, il lui avait offert deux classeurs de photographies qui déroulaient sa vie en images et chronologiquement. Tout y est, lui avait dit son père, visiblement fier. Son arrivée avec la première photo où elle apparaît, maigre et apeurée, emmitouflée dans un pull trop grand pour elle. La découverte de ce qui serait sa chambre. Les manifestations organisées en son nom afin de réunir des fonds et aider d'autres enfants moins chanceux qu'elle. Son premier jour à l'école. Ses anniversaires confondus avec sa date d'arrivée à défaut de connaître sa réelle date de naissance. Ses vacances, ses galas de danse, de piano, les courses à pied et bien d'autres événements encore répertoriés dans ses volumes. Tout y était, sauf ce qu'il n'y avait pas, c'est-à-dire ce qui avait eu lieu avant la première photo. Après avoir tout feuilleté et remercié, elle revint à cette première image. Elle ne put pas se retenir de pleurer. Elle laissa croire à l'assemblée alors réunie qu'elle pleurait de joie, émue par l'afflux de souvenirs. En réalité, ce qui l'attrista, c'est que cette consignation soignée et systématique de ses faits et gestes depuis qu'elle était là ne faisait que souligner ce qui était omis, ce qu'il y avait eu avant tout cela. Maintenant, alors que ses pensées l'y ramènent, elle peut formuler assez clairement ce qui s'est passé. C'est une aigreur diffuse qui s'est emparée d'elle et qu'elle a d'abord répandue sur elle-même et sur ses parents. Elle eut besoin de sentir et de montrer la cicatrice qu'elle s'était tant appliquée à couvrir. Petit à petit, elle se priva de jouir de la vie. Non pas que cela lui répugnât, mais parce qu'elle ne voulait plus cautionner ce qu'ils avaient fait pour son épanouissement. Ou plutôt, elle n'acceptait pas de n'être que cette fille brillante dont ils étaient si fiers. Elle commença aussi à détruire ses réussites et cacher ses joies. Elle cessa ses cours de piano ainsi que la danse qui lui avait donné une sveltesse et une élégance exceptionnelles. Elle ne s'enthousiasma plus pour ses cours et ne poursuivait son cursus que malgré elle d'une certaine façon, usant et épuisant l'avance acquise lorsque ses études l'avaient passionnée. Ses parents virent qu'elle changeait, mais ils lui assuraient qu'ils savaient qu'elle se reprendrait quand le moment crucial se présenterait. Ils assuraient comprendre qu'elle avait besoin de lâcher du lest, de vivre. Après tout, elle arrivait à un âge où elle devait affirmer sa liberté. Il fallait admettre qu'elle fit les choix qu'ils avaient faits à sa place jusque-là. Leur confiance la désespérait. Ils ne comprenaient pas ce qu'elle essayait de leur dire. Alors, elle haussa le ton. Ainsi procéda-t-elle d'abord par des allusions si indirectes qu'elles en étaient presque imperceptibles. Elle oublia de leur laisser le mot auquel elle les avait habitués lorsqu'elles sortaient. Elle ne vint plus les embrasser avant d'aller se coucher. Elle ne mangea plus avec eux, prétextant toujours un emploi du temps spécial. Finalement, comme ils continuèrent à la comprendre, elle quitta la maison et partit étudier à Paris. Au cas où cette distance n'aurait pas suffi, elle changea de numéro de téléphone. Malgré cela, elle ne fut pas entendue, lui sembla-t-il. Son comportement passait pour une crise d'adolescence tardive. Il lui paraît que toute sa vie, jusque récemment, n'a été qu'une tentative vaine pour dire à ses parents et à tout le monde son malaise. Abreuvons nos sillons. Le soir où des bâtards avaient mis le feu au rayon charcuterie d'attaque, j'étais chez moi. Je réfléchissais à ce baratin de sang impur. De la fenêtre de ma chambre, je regardais les flammes jaunes et oranges. Des pompiers avaient rappliqué, des CRS aussi. Les gueux s'étaient mis à dévéliser le reste du supermarché malgré l'incendie. Ils se sauvaient avec des cafetières et des couches-culottes. Sur le trottoir de l'avenue, des tas de gens hurlaient avec la sirène. Ça brûlait. Ça illuminait les immeubles de la cité. J'étais pas étonné. Personne n'était étonné. Parce que le feu est partout. Dans la monotonie, dans la nausée, dans la glande, dans la folie des gens qui disent une chose et en font une autre. Le feu est là, dans chacune des choses. Et il n'y a qu'à attendre lentement que les braises deviennent des flammes et que les centres commerciaux se consument en cendres. Et ce feu-là, celui qui éclairait le monde depuis toujours, était en moi. Il ne demandait qu'à s'allumer. Je me suis couché en regardant ça, et je crois bien que ce fut la pire nuit de ma foutue vie. Mais aussi la plus paisible. Dans la mesure où j'ai compris, en observant cette misère, que tout était définitivement fini pour moi. Les dés avaient été pipés et jetés. Je n'avais jamais vu d'incendie auparavant. Mais tout ce que je comprenais, c'était que ces flammes-là brûlaient en moi depuis longtemps. Depuis toujours, peut-être. Les flammes de l'enfer, c'est l'endroit où brûlent les bâtards. C'est la punition du sang impur, des crevards et des vilains. C'est pour ça qu'il y a toujours quelque chose qui flambe, quelque part en France. Des bagnoles, des collèges, des gymnases, des écoles maternelles, des forêts. Les gens se savent impurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est une forme de purification. Rien ne vaut les flammes lorsqu'on veut éradiquer un virus. Il nous restait que ça, en fait. La purification par le feu. C'était ça. Aussi sûrement que la pourriture qui est en nous, la flamme de la destruction doit brûler notre péché. Celui d'exister. La désœuvre. Demain serait le 25 décembre. Je me préparais. Demain viendrait l'émerveillement, le trouble fasciné face au cadeau apparu de nulle part, arrivé là, au pied de l'arbre, chez nous, dans le salon. Des cadeaux qui me seraient adressés à moi avec mon prénom écrit dessus sur chaque paquet, tracé d'une écriture pleine et aimante. Ce fut vers 3 heures du matin qu'elle vint me réveiller. C'était trop tard pour reculer et puis j'étais toujours d'accord, et même de plus en plus excité. Nous ne le dirions à personne. J'allais enfin avoir quelque chose de Barbara que Ma n'aurait pas. Partager avec elle cette chose qui ne serait qu'à nous deux, un fragment de mémoire, le souvenir de cette nuit-là, cette nuit qui s'annonçait. Aller s'ouvrir et nous accueillir en son monde, l'autre, celui de l'enchantement, un monde sans plus aucune résistance et auquel je croyais encore totalement. Je suivais Barbara, nos gestes comme sur un écran, une histoire de voleur, de gentil voleur, avait expliqué Barbara. Nous ne faisions aucun mal, juste apercevoir un visage, dérober un regard. Ce n'était pas un vol, ça, c'était davantage comme quand on veut rencontrer une star, faut ruser. Sans ma sœur, j'aurais jamais osé. J'avais de la chance de la voir. Avec elle, je ne faisais jamais rien comme les autres. Parfois, c'était douloureux. Mais là, il n'y avait rien à craindre. Elle me l'avait promis et même juré que je me le rappellerais longtemps. Au bout du couloir, arrivé devant le salon, la porte était entrebâillée. J'entendais des froissements. Il était là. Le bruit des cadeaux saisis, posés délicatement les uns à côté, les autres sûrs. De toutes les façons, ce serait réussi, comme chaque fois, chaque matin de Noël, cela recommençait, la découverte d'une féerie où tout semblait briller, le salon devenu immense, chaque chose luminescente. Ces matins-là, j'entrais en pleine lumière, j'avançais, et la scène s'ouvrait, une scène prodigieuse, tout entière, encore baignée, éblouie de mystère. Alors cette nuit, je lui avais dit à Barbara, j'avais insisté, je ne voulais pas voir les cadeaux, juste son visage. Le voir en vrai, lui, et puis vite retourner au lit le plus vite possible pour que la surprise demain soit toujours aussi belle. Pour ne pas l'effrayer, nous devions entrer doucement, avancer vers lui, main dans la main. Mais brusquement, tout avait changé. Pas le temps de prendre la main de Barbara, parce que dans mon dos, la main de Barbara, sa main venait de me pousser, de me projeter en plein centre du salon. La porte avait claqué contre le mur, je faillis trébucher, je me rattrapais à la table basse, me relevais, le regard fixe sur le doigt silencieux de Barbara qui approchait de l'interrupteur. Je voulus l'en empêcher, elle m'avait pourtant bien expliqué qu'avec les guirlandes électriques, ça suffirait, que nous verrions assez. Mais déjà la lumière avait bondi, avalé tout. Plein feu sur eux. Leurs yeux effarés, portraits surexposés, gravés instantanément, définitivement dans ma mémoire. Cette fois, ce n'étaient pas des étoiles qui éclairaient le salon, mais des néons. Ceux que nous n'allumions jamais. Barbara les détestait, les disait trop crus. Nous préférions ces petites lampes disposées un peu partout, ça faisait plus tamisé. C'était vrai qu'ils étaient crus, les néons. Ils aveuglaient. Mais là, je voyais très bien, trop bien. Je voyais leurs visages, leurs deux visages coupables. Père et mère avaient menti. Ils lâchèrent les cadeaux. Je me mis à frapper Barbara. Larmes, cris. Les coups s'accéléraient, elle me laissait faire, attisant même en riant l'énergie de ma rage. C'est ça, ma belle, cogne. Elle m'encourageait, et moi, mes poings, je les sentais. Ils cherchaient à pilonner le merveilleux qu'on venait tout juste de me voler, que j'avais moi-même, et sans le vouloir, dérobé à ma pleine enfance. Par chocs successifs, l'écroulement progressait, et dessous les décombres, je la voyais s'élever. Elle venait à moi, elle était mienne. Je touchais ma nouvelle détresse. Alors je frappais encore. Chaque heure contre le corps de Barbara m'arrachant davantage aux ruines du décor mensonger que je venais de quitter, mais avant, le détruire, le piétiner, le pleurer. Je relevai la tête vers Hernan. La sienne était tombée, il la secouait de gauche à droite, c'était son signe d'impuissance. Il regrettait peut-être, certainement, mais je ne voulais plus le voir, il m'avait menti, lui, Hernan. Ma avait disparu. Seuls tous les trois, Barbara, lui et moi, mon père. Je n'avais plus de Noël. À la place, c'était un vide qui tremblait avec au centre une fissure. Cette nuit-là serait celle de mon premier doute. J'entrais de plein pied dans le deuil de l'illusion, la grande nuit des lucides, les yeux effarés de fatigue. Plus aucune issue. La joie décapitée. Alors les larmes cessèrent. Plus rien à verser. Asséché, je voulus fermer les yeux, tout réinventer, tout recommencer, tout annuler, mais rien n'empêcherait plus mes yeux de rester grands ouverts pour suivre là, devant moi, en ces instants, la contraction définitive de mon univers qui désormais se réduisait au seul visible, à toutes ces choses qui n'existaient que parce qu'elles pouvaient être touchées. À l'avenir, il faudrait avoir vu, touché, entendre pour croire. Ainsi étais-je forcé de ne plus croire au reste, à tout ce qui se cachait. À tout ce qui vivait en moi, en silence et en secret. J'étais obligé de ne plus croire parce qu'à présent, il y avait cet autre univers-là, le nouveau, qui était vrai, lui. Aucun moyen d'en réchapper, un univers contraint, dépourvu de tout céleste. Les issues avaient disparu, j'ai tout fait. Le monde venait d'être muré, le monde n'avait plus de fenêtres, ou bien elles ouvraient toutes sur l'intérieur. Je ne frappais plus Barbara maintenant, je devais me débattre contre tous ces barreaux qui avançaient vers moi. Hernan tenta de me calmer, mais je n'avais plus le temps de me calmer. Les barreaux m'entouraient, j'allais entrer en prison, être enfermé dans ce monde sans porte ni fenêtre, pas même un vrai ciel, où les nuages auraient été autre chose que de la fumée. « Incarcération dans le huis clos de son être », avait écrit Barbara. Ainsi cela avait été fait. Elle avait réussi. Je ne bougeais plus, assommé, lesté, écrasé de réel à genoux sur le carrelage. J'éprouvais ma masse terrestre, le poids du réel désormais entré en moi, inoculé par Barbara. Hernan passait sa main sur la courbe de mon dos, l'échine ployée sous le corps du monde. J'allais me plier, me recroqueviller, me coucher, m'abandonner là, par terre, céder à la pierre. « Relève-toi, c'est lui, Hernan, ton Hernan qui t'a menti. Tais-toi, Barbara. » Hernan venait de parler. Non. Barbara avait répondu. Je me redressai, regardai une fois encore le sol. Il y avait des larmes. J'avais envie de cracher, mais je ne crachais pas. Non, je ne cracherai pas. Je ne crachais pas parce que j'aimais encore Hernan. J'aimais encore ma sœur. C'était le monde que je n'aimais plus. Pourtant, je me relevai. Je me relevai parce que devant moi, soudain, il y avait un espoir. J'allais me recoucher et là, seul, j'irais au rêve. Dans ce lieu de ma tête que personne ne connaissait et que je désignais sitôt lieu de ma joie. Avec elle seule, avec cette joie chevillée aux chairs, je resterai Marie. Celle à qui Barbara reprochait sans cesse d'être trop en vie. Je resterai vivante. Et les rêves avec moi.
Merci François Razon. Je rappelle juste les titres à brevet d'Ancillon aux éditions du Rouergue, donc de Skander Kali. La Désœuvre, oui, de Karine Henry.
Merci pour la lecture encore une fois. Merci.
Chez Actes Sud, et puis le livre de Gilbert Gattoret, Le passé devant soi, chez Phébus. Voilà, ça a été une façon un petit peu de circuler dans les œuvres, d'en prendre connaissance si vous ne les avez pas lues. Je sais que vous êtes nombreux à les avoir lues dans cette salle. En tout cas, voilà de bonnes suggestions de lecture. Et merci à toute l'équipe du Festival de Chambéry.
Merci. Bravo à vous. À vous.